Étude linéaire du premier extrait des Cannibales de Montaigne. Quand Michel Ekem de Montaigne se retire dans son domaine pour écrire les essais en 1571, cela fait déjà plusieurs décennies que les explorateurs ont découvert le Nouveau Monde. Quand il écrit Des Cannibales, Montaigne a lu les récits d'André Thevet et de Jean de Léry qui ont participé à l'expédition française dans la baie de Rio et il a bénéficié des récits de première main de son secrétaire. Il dispose donc d'un matériau dense et varié pour réfléchir aux mœurs des Amérindiens, souvent considérés comme barbares ou sauvages. Dans cet extrait du chapitre 31 des Essais, il met en garde le lecteur contre l'ethnocentrisme qui nous fait juger par ignorance. Je vais procéder à la lecture de l'extrait. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire a produit. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceci, les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffée. Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Le texte de Montaigne est composé de deux paragraphes qui correspondent aux deux grands mouvements du texte. Dans le premier paragraphe, ligne 1 à 12, Montaigne remet en question les qualificatifs de barbare et de sauvage. Et dans un deuxième paragraphe, de la ligne 13 à la ligne 19, Montaigne tire les conséquences de la comparaison entre les deux civilisations. Nous sommes donc amenés à nous poser la question suivante pour analyser ce texte. Comment, à travers une argumentation rigoureuse, Montaigne conduit-il le lecteur à changer son regard sur les habitants du Nouveau Monde et à remettre en question ses valeurs? Nous allons voir donc dans une première partie comment Montaigne remet en question les qualificatifs de barbare et de sauvage donnés à ses peuples. Pour lui, ce sont des notions qui sont mal pensées. On le verra donc en analysant tout d'abord sa thèse aux lignes 1 et 2, puis son premier argument et son premier exemple sur la barbarie, lignes 2 à 6, puis son deuxième argument sur la sauvagerie, lignes 6 à 12. Nous verrons ensuite dans un deuxième paragraphe, dans le deuxième point de notre étude, comment Montaigne tire les conséquences de la comparaison entre les deux civilisations, tout d'abord pour mettre à mal la supériorité des Européens, lignes 13 à 16, puis pour consacrer la supériorité de la nature sur la culture, lignes 16 à 19. Notre étude commence donc par l'analyse du premier paragraphe, où Montaigne remet en cause la barbarie et la sauvagerie supposées des Indiens. Son paragraphe commence par l'expression de sa thèse, lignes 1 et 2. Montaigne affirme que les Indiens ne sont ni barbares ni sauvages. Son argumentation commence par « or », une conjonction de coordination permettant de mettre en valeur son idée. Montaigne commence une autre démonstration qui tranche avec ce qui précède dans le chapitre. Il emploie aussi la première personne du singulier, « je trouve », pour revenir à mon propos, car sa thèse est originale, subversive, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre de l'idée commune, et il l'assume. Cela nous rappelle aussi qu'il veut faire des essais une conversation libre à saut et à gambade avec le lecteur. Donc il a perdu son sujet, il le reprend. Il s'exprime en son nom et de manière authentique. Il nie donc le caractère barbare et sauvage des Indiens en utilisant « il n'y a rien de barbare et de sauvage chez eux ». La négation est ici donc une négation qui comporte un pronom indéfini, « rien », qui insiste justement sur cette négation. C'est plus fort que de dire qu'ils ne sont ni barbares ni sauvages. Par la suite, Montaigne propose une nouvelle définition de la barbarie, ligne 2 à 6. Il nie le caractère barbare des Indiens, mais il dénonce surtout le regard des Européens en affirmant « sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans son usage ». Ce que Montaigne nous dit avec la conjonction de subordination « sinon que », c'est que la barbarie se retrouve davantage chez les Européens qui jugent hâtivement des mœurs qu'ils ne connaissent pas que chez les Indiens eux-mêmes. Il retourne un petit peu, d'une certaine façon, le sens de la barbarie. Il nous dit dans une formule qui ressemble à un adage que nous n'avons d'autre mire que les usages de notre pays. Alors, cette tournure restrictive, nous n'avons d'autre mire que, insiste sur l'étroitesse d'esprit des Européens. De plus, l'emploi du présent de vérité générale et de la première personne du pluriel, nous, rappelle que cette attitude est universelle. Le lecteur est interpellé et puis Montaigne s'inclut aussi dans ce groupe. Dans ce passage, Montaigne critique les préjugés des Européens en opposant la vérité et la raison, qui se trouve ligne 4, avec les idées, les opinions et les usances, ligne 4 et 5. Les Européens jugent par préjugés subjectifs, hein, ce sont des opinions, et non par leur raison, qui devrait leur apporter un jugement plus réfléchi. Ligne 5 et 6, Montaigne prend des exemples pour illustrer la suffisance des Européens qui croient détenir la vérité. Il dit donc « là est la parfaite religion, parfaite poliste, parfait et accompli usage de toute chose ». Les hyperboles, avec « parfait et accompli », témoignent de la naïveté des Européens. Bien sûr, cette phrase est ironique dans la bouche de Montaigne, qui ne croit pas en la supériorité des Européens. Il se moque un petit peu des Européens qui sont suffisants et se pensent supérieurs. Aux lignes 6 à 12, après avoir redéfini la barbarie, Montaigne cherche à redéfinir la sauvagerie par un autre argument. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits de la nature, etc. Avec l'outil de comparaison de même que, Montaigne file une métaphore entre les Indiens d'Amérique et des fruits nés de la nature. Pour Montaigne, les Indiens sont sauvages parce qu'ils sont produits par la nature et qu'ils ne sont pas produits par la civilisation ou par la culture. Montaigne prend ici l'adjectif « sauvage » dans le sens étymologique de « silhouaticus », de « siloua », la forêt. Donc « silhouaticus », vivant dans la forêt. Par la suite, ligne 8 à 12, Montaigne poursuit la métaphore filée en comparant les fruits naturels que sont les Indiens aux fruits dévoyés que sont les Européens. En effet, à la culture européenne est associé un lexique très péjoratif, altéré, détourné, abâtardi, corrompu. Tandis que les Indiens sont associés à un lexique très positif, vive, vigoureuse, vraie, utile, naturelle vertu et propriété. Montaigne va à l'encontre de l'idée commune selon laquelle la civilisation apporte du progrès. L'art, la technique sont vus ici comme des artifices, néfastes. Finalement, ce sont les Européens qui devraient être appelés sauvages, c'est ce qu'il nous dit ligne 10, dans le sens de barbares et inhumains, car ils se sont éloignés de la nature. Ils sont décadents, d'une certaine façon. Le premier paragraphe nous propose donc une démonstration rigoureuse. Après avoir affirmé sa thèse, Montaigne nous prouve que les Indiens ne sont pas barbares, qu'ils ne sont pas sauvages, et que ces adjectifs devraient même être plutôt appliqués aux Européens. Dans un deuxième paragraphe, Montaigne tire les conséquences de la comparaison entre Indiens et Européens, aux lignes 13 à 19. Tout d'abord, il affirme que la supériorité des Européens sur les Indiens est infondée, lignes 13 à 16. Le deuxième paragraphe commence par un connecteur logique, « si est-ce que », soulignant encore la thèse subversive de Montaigne. Il veut dire que malgré leur manque de culture, les Indiens ne doivent pas être considérés comme inférieurs. Par la suite, il compare ces contrées-là et les nôtres à la ligne 14. La comparaison est marquée par l'outil « à l'envi ». Montaigne veut montrer ici que les Indiens n'ont rien à envier aux Européens puisque leurs fruits sont excellents, quoique obtenus sans culture, ligne 14-15. On peut noter les hyperboles que Montaigne emploie pour qualifier les fruits du Nouveau Monde, saveur, délicatesse, excellente. Montaigne continue de filer la métaphore des fruits, mais cela désigne peut-être plus généralement les mœurs des Indiens d'Amérique. Avec « ce n'est pas raison », ligne 15, Montaigne appelle à la raison et non aux préjugés du lecteur. Il veut changer le regard du lecteur sur ses valeurs. C'est un peu la conclusion de son argumentation. L'art, ligne 15, n'est pas supérieur à la nature. Notons que la nature est personnifiée et présentée de manière très valorisante. On parle de puissante mère nature ici. À partir de la ligne 16 et jusqu'à la ligne 19, Montaigne va plus loin et consacre la supériorité de la nature. Montaigne oppose la perfection de la nature, exprimée par les mots beauté et richesse, ligne 16-17, à la déchéance des produits de la civilisation. Il les appelle donc nos inventions, et il utilise les participes rechargés, étouffés. Ce que Montaigne veut nous dire, c'est que la civilisation est assimilée à l'art et à l'artifice qui détruisent la nature. Le philosophe renverse les valeurs communément admises, puisque la civilisation n'est plus synonyme de progrès. Par la suite, il généralise son propos, ligne 18-19, en exaltant la pureté de la nature qui reluit, avec un vocabulaire très amélioratif, c'est ligne 18. Et il dénigre les produits de la civilisation qu'il désigne sous le nom de vaines et frivoles entreprises. Montaigne critique ici la superficialité des préoccupations européennes. Finalement, il dénonce le comportement des Européens en faisant appel à la merveilleuse honte. Merveilleuse est une hyperbole. Alors, c'est la honte que doit ressentir l'Européen lorsqu'il compare ses inventions à la nature. Pour Montaigne, c'est une honte d'être un être humain incapable de voir la perfection de la nature et de ne pouvoir s'empêcher de la souiller par vanité. Quand on parle de vaines entreprises, ça veut dire des entreprises qui sont peut-être voulues par la vanité de l'homme. Dans ce deuxième paragraphe, Montaigne commence par démontrer en quoi les Indiens, représentants de la nature, ne sont pas inférieurs aux Européens, représentants de la culture. Puis il renverse complètement les valeurs communes de son époque en consacrant la supériorité de la nature sur la culture. En conclusion, on peut dire qu'à travers une argumentation rigoureuse en deux paragraphes, Montaigne conduit le lecteur à changer son regard sur les habitants du Nouveau Monde et à remettre en question ses valeurs. Dans un premier paragraphe, Montaigne remet en effet en question les qualificatifs de barbares et de sauvages qui ont été attribués à ces peuples. Pour lui, les Amérindiens peuvent être barbares et sauvages, mais dans un sens vraiment différent de celui qui est employé par les Européens. Dans un deuxième paragraphe, Montaigne tire les conséquences de la comparaison entre les deux civilisations. Cet extrait du chapitre « Des cannibales de Montaigne » a fait date pour la réflexion sur l'altérité à partir du XVIe siècle. Il est à l'origine du mythe du bon sauvage qui idéalise les sociétés du Nouveau Monde et consacre la supériorité morale des peuples qui vivent proches de la nature, sans être corrompus par la civilisation. Il est à l'origine du relativisme culturel qui s'oppose à l'ethnocentrisme. L'homme doit s'efforcer d'accepter d'autres systèmes de pensée pour rencontrer véritablement l'autre. Ces réflexions se retrouvent au XVIIIe siècle chez Diderot, dans le supplément au voyage de Bougainville, qui interroge le lecteur sur les différents systèmes de valeurs entre Tahitiens et Européens.